Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 25e épisode, épisode numéro 24. Nous sommes le 25 novembre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous ?
Bonjour, eh bien je m'appelle Alexandre Berthaud, je travaille chez Clever et je suis dev et je fais aussi de l'Ops et de l'Infra.
Je suis aussi accompagné de Alexandre Duval. Bonjour Alexandre Duval, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis dev chez Clever et je m'occupe principalement des add-ons et de la collecte des logs et leur forward au bon endroit.
Et je suis accompagné de Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous ?
Bonjour, en effet Arnaud, je travaille aussi chez Clever Cloud et je m'occupe, je suis développeur et un peu d'Ops aussi également, en s'occupant de pas mal de trucs.
Ok, alors on y va et on commence tout de suite par le grand retour du cloud suzerain, as usual. C'est le début du podcast, parlons un peu de ces sujets-là. La semaine dernière se tenait le GaiaX Summit. C'était la première présentation entre guillemets publique de ce que devait être GaiaX. Beaucoup d'interventions d'hommes, de femmes politiques. En fait, je me suis connecté à ça, j'ai subi ça. C'était pas très tech du tout. C'était assez abstrait. C'était très politisé, comme je vous l'ai dit, des ministres, des secrétaires d'État, des gens de la Commission européenne, pour se dire que tout ceci est une merveilleuse idée et que nous devons travailler tous ensemble à faire le cloud européen, le cloud souverain, n'est-ce pas ? Donc ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et l'objectif annoncé, c'est de construire une infrastructure de données fédérées, rangées sous forme de verticaux de secteur business. Donc en gros, tu auras la fédération des data IoT, tu auras les données fédérées côté santé, les données fédérées côté industriel, etc. Et la création d'un standard pour que, par exemple, la zone de data IoT chez Clever, on parle de la même manière à la zone de data IoT chez Outscale, chez OVH, chez Bidule.
Ok. Voilà.
C'était assez intéressant, même si on n'a pas forcément vu à quoi ça servirait. Ils ont passé énormément de temps à présenter la structure de l'association, puisqu'en fait, c'est une association de droit belge qui a été créée par les membres fondateurs, donc Atos, EDF, enfin, je ne sais plus, vous regarderez. Les membres fondateurs sont globalement les mêmes gens qui ont travaillé sur... l'ancien cloud souverain, CloudWatt, Numergy, tout ça. C'est bizarre. Bref, passons. Et donc ça, c'était le GaiaX Summit, et on vous met le lien d'un article sur Euractiv d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Fermigier et de monsieur Sven Frank. Stéphane, il est président fondateur de l'AFUL, l'Association francophone d'utilisateurs de logiciels libres, il y a de ça fort longtemps. Et multi-entrepreneur, il a fondé pas mal de boîtes, notamment Nuxeo. Moi, j'ai commencé ma carrière. Maintenant, il est sur Abilian. Et Sven Frank, c'est le patron de Nexedi, je crois. Et Nexedi, c'est aussi du cloud français avec RapidSpace. Vous pouvez voir sur rapid.space si vous ne connaissez pas. Et en gros, ce qu'il dit dans cet article, c'est que même joueur joue encore. On est en train de reprendre les mêmes gens qui ont fait le cloud souverain il y a 10 ans, qui n'a pas marché. On est en train de leur refiler plein de pognon. Et en plus, là, on est en train de repartir sur une technologie américaine. Et à savoir, alors il y a deux sujets là-dessus. Il y a de l'entrisme, dans le sens où, dans le cloud européen, dans GaiaX, les boîtes non européennes ont le droit de jouer. Donc, t'avais Google, t'avais IBM, enfin, t'avais tous les autres clouds, quoi. Donc, tu te dis, c'est souverain, oui, mais bon, vraiment. Quand ils ont présenté la structure de l'association, ils précisent bien que aucun membre de ces sociétés, aucune de ces sociétés ne peut faire partie du board de l'association. Tu vois, fine. Mais ils peuvent quand même rentrer dans l'association. Et surtout, un des autres sujets dans cet article, Stéphane et Sven disent que la dernière fois, on était parti sur OpenStack, qui était sous gouvernance américaine. Cette fois, ça a l'air de vouloir partir vers Kubernetes, qui est sous gouvernance américaine. Et donc, ils font vraiment un parallèle entre ce qui s'est passé pour Cloud Souverain la dernière fois. Donc, utiliser des technos OpenStack américaines et utiliser Kubernetes. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux technos qui sont open source. Et ça pose problème. Alors, du coup, les questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est quid de la gouvernance des projets open source? Est-ce que parce que le projet est initié par une boîte américaine ou par un GAFAM, même s'il est open source, est-ce qu'on peut encore dire que c'est eux qui ont la main, entre guillemets, là-dessus, tu vois? Est-ce que c'est vraiment un problème de souveraineté quand on parle de projets open source? Ça, ils en parlent pas forcément dans l'article, je trouve ça un peu dommage. J'ai pas forcément
de... C'est pas évident, en effet, ouais.
De réponse à ça, ouais.
Après, ouais. Je sais pas, enfin, tu vois, c'est ça, c'est la partie, bah, c'est l'open source, mais en même temps, c'est aussi développé bah, par des grosses entreprises à droite à gauche qui capitalisent dessus, quoi, donc...
C'est ça, qui paye les committeurs, qui paye les gens qui...
Ouais, voilà.
Qui paye les gens qui bossent au jour le jour là-dessus, et effectivement, là, en l'occurrence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des Américains. Mmh. Donc c'est un peu l'idée, entre guillemets, de la roadmap. Voilà, l'article parle de Cube. En pratique, pendant la conf la semaine dernière, il n'y a pas eu trop de concret. Pour l'instant, c'est plus une idée qu'autre chose. Normalement, il n'y a pas de proto. A priori, on verra un proto en juin 2021. En juin 2021, c'est aussi le moment où ils vont élire un vrai board parmi toutes les associations membres, toutes les entreprises membres de l'association GAIX. Pour l'instant, c'est les membres fondateurs qui gèrent. En juin 2021, il y aura passage de bâton, vraie élection de comité, etc., etc. Donc voilà, c'est voilà l'article lève une alerte sur l'entrisme des boîtes non européennes dans une structure qui se voulait européenne et souveraine, et le fait d'utiliser des technos qui seraient pas européennes non plus. Quid. Moi, je suis partagé sur le côté open source, même si effectivement, comme tu dis, Arnaud, c'est finalement, les projets sont maintenus par des devs. Les devs, faut les payer, et les devs qui sont payés pour ces trucs-là, c'est pas des boîtes, c'est peu des boîtes européennes. C'est surtout des boîtes US. Est-ce que c'est le moment de se repencher sur les fondations open source? Je ne sais pas, peut-être.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme sujet. Après, tout ce qui était CloudWatt et Numergy, non, c'était pas Numergy,
c'est ça.
C'était plus français, ça, par contre. On est d'accord, c'était pas.
C'était plus français, ouais.
Ah, c'est plus français européennement.
Alors, ouais. Je crois que c'est des fonds européens quand même, je sais plus.
Ah, d'accord. Ok.
Là, GAIX, à la base, c'est franco-allemand, mais tous les pays s'y sont mis. Donc, je te dis, dans la discussion, t'avais des ministres et secrétaires d'État au numérique de plein de pays différents. Donc, ça a vraiment. C'est vraiment en train de bouger.
Mais du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est en effet avoir leur propre infrastructure quand même, et juste en fait avoir une couche de compatibilité, enfin un standard de compatibilité que tout le monde peut implémenter pour utiliser, enfin la même chose en fait, c'est ça.
Bah alors ça, c'est la théorie. En pratique, est-ce que du coup, ça va reposer sur Kubernetes ou autre chose? On ne sait pas trop.
Ouais, mais du coup, dans leur même infra, parce qu'imaginons si c'est, est-ce que ce serait du Kube, je sais pas, enfin sur une infra Amazon ou Google, enfin tu vois, il y a ce genre de questions aussi. Ou est-ce que ce sera vraiment leur serveur à eux, enfin où ce sera, je sais pas. Ou si c'est juste un standard et c'est tout quoi.
Ce sera extrêmement triste que ce soit pas sur une infra européenne. A priori, le but c'était d'investir dans de l'infra aussi, mais c'est vrai que
le but c'est pas vraiment très clair là-dessus. Infra européenne en fait. Ouais. Et que ce soit auto magiquement fédéré. C'était intéressant parce que tu avais vraiment deux niveaux de discours différents où tu avais le côté ça va être génial, tout va être fédéré, tout va marcher auto magiquement entre toutes les zones, elles vont pouvoir se parler et tu vois, ça enlève complètement le côté on va créer des produits, il va falloir apprendre à se parler. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils vont résoudre un problème métier. Genre, il faut qu'on parle tous à des zones sur des business particuliers par de l'infrastructure et je sais pas si ça peut être considéré comme une bonne idée.
Bah, à ce sujet, il y a donc moi je suis issu du monde agricole et je connais un petit peu le domaine. Et du coup, en fait, il y a une plateforme française qui a été mise en place qui s'appelle API Agro. Et en fait, c'est une plateforme d'échange de données comme ça entre plein de services. Et ça marche bien. Après, il y a peut-être des acteurs qui sont un peu plus consommateurs de données que producteurs, et du coup il y en a qui en tirent plus d'avantages que d'autres, mais l'idée c'est vraiment une plateforme d'échange de données fédérée autour de l'agriculture. Donc t'as plein de datasets en temps réel et tout qui te permettent de relier des trucs bêtes, par exemple des naissances d'animaux avec je sais pas moi des statistiques sur les taux de protéines, etc., du lait, etc., en fonction des vaches et tout. Et du coup, tu as un gros modèle de données et ça marche plutôt bien dans l'agricole. Et du coup, je pense que aussi au niveau européen, il y a quand même un sujet agricole autour, à côté des sujets santé, etc. Et du coup,
c'est cool de t'en inspirer. C'était pas exhaustif, hein. Il y a plein d'autres domaines, mais c'est ce dont je me rappelais. Moi, j'avais fait un magnifique parallèle entre les données de crise cardiaque et de consommation de fromage dans les départements français.
Stylé.
Et alors? Fausse bonne idée. Et alors, il faut pas manger de fromage, c'est, ça rend cardiaque. C'est pas
un peu trop. Oui, mais par rapport au département, il y avait des choses.
Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je pense qu'il faut éviter le triple crème. A priori, tout ça, c'est chaud. Bref. On verra.
Ouais, attendons juin, quoi.
Attendons juin 2021. Mais en attendant, c'est vrai que pour quelque chose qui se voulait pro-européen, avoir un peu tous les GAFAM au board, dans l'association, encore une fois, ils n'ont pas le droit, selon les statuts de l'association, d'être au board. Il y a un petit côté entrisme pas très cool.
Juste, on sait combien d'argent sera investi dans ce projet ? Parce que je sais que pour Numergy CloudWatch, je ne sais pas si on le savait au tout début, mais on l'a su à la fin du coup. Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité sur leur feuille de route ici ? Est-ce que ça a changé à ce niveau-là ? Je ne sais pas.
Je sais plus, je crois qu'il y a eu des chiffres d'annoncer il y a longtemps, peut-être par Thierry Breton ou peut-être par Van der Leyen, je sais plus trop.
Okay.
Ce qu'on sait, c'est que pour bénéficier de ça en France, il faut se rapprocher du CIGREF, puisque c'est le CIGREF qui va gérer le Gaia-X en France. En fait, chaque pays a une instance pour s'occuper de Gaia-X, et en France, chez nous, ce sera le CIGREF.
Qu'est-ce que le CIGREF ?
Qu'est-ce que le CIGREF ? Faut que je te retrouve l'acronyme, parce qu'à chaque fois, je l'oublie.
Ouais, mais... Enfin, ouais, ok.
Ou juste ce qu'ils font.
Ouais.
C'est un...
Je t'embête avec ça.
C'est un... Non, mais t'inquiète pas. C'est un organisme dédié au numérique et chez les pros, en fait.
Ok,
en
ok. D'accord.
C'est la gestion du numérique. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas mis digital, tu vois, donc c'est des vrais.
C'est bon, déjà bien.
C'est gratuit. Oui. Mais c'est peut-être pas un acronyme, en fait, si ça se trouve. Une association représentative des plus grandes entreprises et administrations politiques françaises qui accompagnent ses membres en organisant, animant et synthétisant leurs réflexions collectives sur les enjeux du numérique. Et dans l'article, d'ailleurs, il parle du fait que le CIGREF avait déjà donné des avis assez défavorables sur ce que certains projets européens avaient proposé de faire, de se mettre d'accord sur un certain nombre de règles de marché, et apparemment ils n'étaient pas chauds. Et dans la série pas chaud, passons au lien suivant. Le gouvernement chinois n'est pas chaud par rapport à un certain nombre d'entreprises chinoises qui montent en puissance. En fait, ils ont publié un rapport antitrust, c'est une des premières fois que le gouvernement chinois publie un rapport antitrust pour définir ce que c'est une pratique anticoncurrentielle. En Chine, parce que les Batix de mémoire, je sais plus qui, Alibaba, Tencent, enfin,
Baidu,
grosses boîtes chinoises, Baidu, commencent à vraiment prendre de la place en Chine et semblerait entre guillemets faire peur au gouvernement qui se lancerait un peu comme on en avait parlé il y a 15 jours, 3 semaines, on avait un peu parlé d'antitrust avant. Pour les États-Unis, et là, ça arrive en Chine. Publication du rapport, cassage de gueule en bourse de toutes les boîtes chinoises, et je sais plus, ils disent, je crois, perte de 100 millions en valuation sur le marché, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Bref, moi, ce que je trouve plus intéressant là-dedans, c'est le fait que, à la fois aux États-Unis et à la fois en Chine, on se pose des problèmes, des questions de pratiques anticoncurrentielles et d'antitrust, des boîtes trop grosses, qui peuvent entre guillemets empêcher l'innovation et l'arrivée des plus petits sur le marché. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire un parallèle avec Gaia-X avant. Moi, en assistant à la réunion de Gaia-X, en voyant toute la lourdeur du truc, je me suis dit, c'est pas possible de participer à ce projet-là si t'as pas une armée de gens pour implémenter tout ce dont ils parlent. Et du coup, je trouve que le coût d'entrée que ça peut représenter est fort pour les petites boîtes. Et si jamais ça devient un prérequis pour accéder à certains marchés, du coup, ça va zapper tout un tas de petites boîtes qui seront pas assez grosses pour pouvoir gérer ces trucs-là. Et donc, c'est une forme de problème de monopole aussi et de concurrence aussi. Et bref, je trouve ça intéressant que la Chine se pose des questions au même titre que les États-Unis, et nous, en Europe, on se pose pas de questions, peut-être parce qu'on n'a pas d'acteurs assez gros pour se poser ce genre de questions, ce qui est un peu triste.
Ouais. Bah après, on a plusieurs acteurs quand même, même si on essaie d'en créer un plus gros au final, je suppose.
Alors, l'intérêt de GX, qui est pour le coup très intéressant, c'est sur la fédération et pas sur la création d'un acteur pour les gouverner tous, mais de fédérer, du coup, mais à façon européenne. Ce qui est plutôt chouette dans l'idée.
Yep, ok.
Alexandre.
Oui, en plus. Je dirais juste, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose qu'en Europe, justement, on n'ait pas de très gros acteurs comme ça. Point de vue concurrence, c'est sympa. Moi, tu sais qu'une petite boîte a des chances de vraiment s'ouvrir une part sur le marché. Après, en fait, en tout cas dans notre milieu, on se retrouve en concurrence avec les autres continents. En fait, on n'est pas en concurrence avec les Européens, on est en concurrence avec les Américains. Ouais. Et les Chinois dans une moindre mesure. Donc voilà, c'est bien, et en même temps, on est un peu coincé quand même, quoi. Donc il faut bien qu'on ait une force en Europe. Effectivement, si GaiaX peut aider ça serait bien pour imposer et montrer qu'on a la capacité de faire des choses bien aussi en Europe, quoi. Donc, espérons que ça marche.
Ok, on passe au lien suivant. C'est un lien d'Arnaud sur la politique cloud d'Atlassian. Une annonce un peu dramatique quand tu lis le titre, mais en fait, ça va.
Ouais, en effet. Alors, ça fait un mois à peu près que maintenant que la news est sortie. Mais oui, en effet, Atlassian met fin à certaines catégories de ses produits pour se concentrer en fait sur du cloud. Et par catégorie de produits, j'entends par exemple, en l'occurrence, je crois que c'était principalement Jira et Confluence qui étaient visés. Ils ont annoncé la fin de l'offre serveur, comme ça à peu près, et pour ensuite faire migrer les gens vers leur offre cloud. Est-ce qu'ils préfèrent, enfin, ils sont en train de suivre une politique de cloud first.
Moi, quand j'ai lu la headline, je me suis dit « Ah merde, on ne pourra plus héberger de produits Atlassian. »
Exactement. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui ont compris ça aussi. Et au tout début, quand j'ai lu le titre, j'ai fait « Ok, nous, on a certains clients pour qui on héberge en effet ce genre de produits qui nous ont aussi contacté en mode « Bah, comment ça va marcher ?» Parce que on vous avait choisi pour éviter d'être aux US. Donc, comment on fait ? Et du coup, je suis allé voir la news, et en fait, ils ont plusieurs catégories de licences pour ces services-là. Une licence qui s'appelle serveur, une autre qui s'appelle data center, et une troisième, on va dire, que c'est la partie cloud. Et en fait, ils suppriment juste la licence serveur pour la remplacer, pour étoffer leur offre, on va dire, data center. Enfin, ils absorbent en fait la licence serveur dans l'offre data center, même si l'offre data center avait globalement la majorité des fonctionnalités. Et en fait, il vous sera toujours possible de faire du on-premise avec votre Jira, votre Confluence et les autres produits qui sont impactés par ce changement-là. En fait. Donc, il n'y a pas vraiment de gros changements, on va dire. A priori, juste un changement de licence et c'est bon. La problématique, c'est que ça augmente le prix. Forcément, parce que la licence data center était quand même, a priori, beaucoup plus orientée multi-site, multi-data center, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et donc là, du coup, le coût d'entrée risque d'être un petit peu plus élevé. Donc, je crois qu'on n'a pas encore les détails des prix. Il faudrait que je regarde, mais voilà. Et en fait, du coup, ils ont une feuille de route pour la partie suppression de l'offre serveur. Donc elle est assez longue, honnêtement. Ça sera littéralement supprimé en 2024. Mais du coup, la feuille de route, c'est à partir de février 2021, ils arrêtent les licences, enfin la vente de la licence serveur. Et ils changent les prix de l'offre data center. Alors je ne sais pas s'ils vont les augmenter ou pas. Je suppose qu'ils vont baisser peut-être le prix de la data center, je sais pas, pour essayer de faire un entre-deux avec le serveur, on verra. Ensuite, en février 2022, ils arrêteront les mises à jour de support sur les offres serveurs. Ils garderont juste les mises à jour de sécurité importantes. En 2023, donc pareil, février 2023, un an après, ils arrêteront la vente carrément des applications et des mises à jour en fait de des licences, etc. globalement. Parce qu'en fait, avec, chez eux, tu peux acheter une licence genre de 1 an, mais en fait, c'est une mise à jour d'une autre licence. Et du coup, c'est comme ça que tu peux renouveler ta licence genre tous les ans, tous les 2 ans, etc. Et après, en 2024, l'arrêt du support. Donc, vous pourrez continuer de faire fonctionner la chose, je sais pas. La licence sera probablement out of life, mais je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Mais enfin, voilà. Donc...
Bah, s'ils forcent les gens à avoir des déploiements type data center alors qu'ils ont juste besoin d'un confluent qui est up du lundi au vendredi de je sais pas 9h à 18h, on s'en fout un peu de la licence data center et du multisite quoi. Donc faut espérer que ce soit un tarif abordable.
Bah ouais, c'est la question que je me pose en effet. Est-ce qu'ils vont enfin qu'est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là? Peut-être qu'ils l'ont annoncé, j'ai pas vu, parce que j'ai principalement regardé les changements techniques, ce que ça incluait. Mais après avoir regardé rapidement, ça a l'air juste d'être un changement de licence, parce que, en effet, les binaires d'installation et autres, entre la version serveur et data center qui sont fournis par Atlassian sont les mêmes. Donc, voilà. Il faudra faire, évidemment, des tests, etc. Mais c'est pas si dramatique que ça, on va dire. C'est pas, hein, on va tout délocaliser dans le cloud. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment, ouais, qui avaient vraiment peur. Ce qui est logique, quoi. Vu le titre était un peu trompeur, je trouve, mais bon, voilà. C'est aussi, je suppose, leur stratégie. Ce qu'ils disent dans leur article, ils disent que la majorité, je crois que c'était 90% maintenant, des personnes commencent d'abord par leur offre cloud, ou pas en tout cas par tester leur produit cloud, et après peut-être partent sur une offre on-premise, mais bon, voilà. Ils justifient ce changement par ces métriques.
Ok. Alex.
Non, je... Très bien.
Vous préférez vous tenir à l'écart des produits Atlassian, pour des raisons évidentes.
Absolument, je voudrais pas me retrouver avec une étiquette expert Jira ou un truc comme ça. Je n'y tiens pas.
Aïe. Je le prends très mal.
Non, au contraire.
C'est le HugOps pour les gens qui sont en charge de toute cette stack-là. On passe au lien suivant, je sais plus qui l'a mis, c'est... Alors, on reste dans les headlines, un brin dramatique, et là, ça commence par « Your computer isn't yours ». On avait parlé d'OCSP la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui était le serveur de vérif de certif Apple, et apparemment, il communique en clair, de façon assez verbeuse, tout un tas de choses.
Ouais, c'est ça, c'est moi qui ai mis le lien, mais je pense si les autres veulent intervenir dessus, il n'y a aucun souci. En effet, le titre, pareil, un peu racoleur et tout, mais c'est pas tout à fait faux. Après, en effet, le problème du serveur au CSP, il y a 2-3 semaines, alors j'étais en congé, j'avais pas trop suivi l'histoire, des gens en fait ont quand même continué à creuser le sujet et en fait se sont rendus compte que, donc en effet, à chaque fois que vous lancez une application sur votre MacBook, en fait, le système fait une requête au serveur au CSP avec un identifiant unique a priori de l'application qui permet en fait d'identifier, je suppose, l'application auprès du service Apple, quoi.
Arnaud, c'est quoi un service au CSP?
Alors là, je sais, de ce que j'ai regardé rapidement sur Wikipédia, c'est au CSP, je crois que c'est plus un protocole qu'un vrai service, mais en tout cas, c'est. C'est un protocole qui facilite la vérification de certificats.
Ouais, en fait, c'est un protocole qui permet la vérification de la révocation d'un certificat, en fait. Ça permet de publier la révocation d'un certificat, concrètement.
Pardon, okay. C'était juste pour...
t'inquiète, t'as raison. Et du coup, en fait, dans le cadre d'une application, en fait, a priori, toutes les applications Mac ont probablement un certificat, et en fait, ce serveur est utilisé dans le cadre de leur politique, peut-être de anti-malware ou anti-piracy, quoi. En fait, et du coup, il vérifie que l'application que vous avez lancée est bien une application soit legit, soit vous avez bien accès, etc., quoi. Mais en fait, en faisant ça, ça reste du fingerprinting d'application. Et du coup, en effet, à chaque fois que vous lancez une application, ils ont votre localisation, puisque ils ont l'IP dans laquelle depuis laquelle ça a été émis. Ils ont la date et l'heure à laquelle vous l'avez fait, donc ils peuvent un peu surveiller aussi, est-ce que vous travaillez la nuit, ou est-ce que vous travaillez là actuellement chez votre pote, ou même lancer juste une application chez un pote ou autre. Et le plus gros problème, je crois, là-dedans, honnêtement, c'est qu'en effet, la requête n'était pas chiffrée. Donc elle était en clair. Donc c'était un peu dommage parce que facilement sniffable sur des réseaux ouverts ou autres, et surtout qu'en fait elle est passée par un CDN, enfin il passe par un CDN qui est Akamai. Donc a priori Akamai recevait la requête en clair avant de la transmettre à Apple, ce qui est un peu dommage, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a pas mal de choses, l'article aussi détaille énormément d'autres problématiques qui se justifient aussi, il montre un peu des choses techniques en mode si en fait c'est bien probablement le certificat de l'application qui est envoyé, etc. Enfin, il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était faux. Il a essayé de débunker un peu ça. Enfin, bon, faites-vous votre avis dessus. Par la suite, Apple a communiqué aussi qu'ils allaient arrêter d'envoyer tout ça en clair, qu'ils allaient a priori supprimer les IP des logs de connexion, etc. pour anonymiser un petit peu la chose. Voilà. Donc c'est.
Je rajoute un lien sur un article de The Verge qui est un peu plus posé, moins dans la réaction et dans le drama, okay. qui décrit un peu la réponse d'Apple, parce qu'évidemment Apple a répondu, donc on laissera.
Je crois que l'article à la fin, en fait, l'article a eu pas mal de mises à jour au fur et à mesure. Au tout début, il est un peu, en effet, il est très sec. Puis après, il y a eu des edits, et ensuite il a inclus les réponses de Apple, etc. Puis après, il a encore enchaîné sur d'autres choses, genre sur iMessage qui avait des problèmes, enfin des autres problèmes. Enfin, l'article est assez long, donc il est très détaillé, et en effet, Apple a probablement répondu de manière un peu plus posée sur le sujet.
C'est pas facile quand tu écris un blog en 2020 où tout se passe en ligne et où tout le monde a récupéré l'attention de tout le monde. Du coup, il faut trouver un titre aspiralien de ouf pour,
Le
pour
titre
avoir l'attention des gens, tu vois. Et
il y aura couleur, hein, c'est pas de.
C'est ça. Ok, on passe au lien suivant. C'est un talk Twitch de Codeur en scène. Codeur en scène conf normande. C'est donc un lien canard.
Oui, donc cette année, avec le contexte, Codeur en scène qui organise habituellement des meet-up réguliers en physique et une journée de conférence un peu plus conséquente. Cette année, du coup, avec la situation, y a eu une organisation via Twitch, en fait, avec un programme calendrier sur le mois de novembre où, en gros, le mardi soir et le jeudi soir, on a des conférences en ligne sur Twitch. Et je reviens sur une conférence, du coup, qui est disponible toujours sur Twitch en review, mais qui sera bientôt sur YouTube, sur les index de Nelson Dionysi. Et en fait, il a fait une conférence qui est... Enfin, à mon sens, ultra importante si on n'a pas conscience de ce qu'est un index et de comment ça marche. Parce que nous, chez Clever, on a souvent des problématiques d'index sur des DB lentes, etc. Et
au support.
Ouais, au support notamment.
Ouais, surtout. Fait, ouais.
Et du coup, ça vient souvent d'index manquant, etc. Et du coup, il y a un super talk qui explique comment ça marche. C'est ultra illustré. À la fin, il y a même une séance de questions-réponses qui dure à peu près une heure. Donc, c'est un talk ultra ouvert et super intéressant et sans marketing, sans bullshit, très très précis.
Je l'ai pas regardé en entier, mais c'est super bien expliqué. C'est hyper pédagogique. Les dessins sont, les schémas sont hyper parlants.
Ouais,
carrément. Je trouvais ça vraiment très très chouette.
Et du coup, c'est plus orienté débutant ou c'est vraiment tout niveau en fait et ça commence doucement et ça monte un peu, c'est...
Non, mais ça explique, ouais, c'est de A à Z si tu veux, ça commence gentiment, ça t'explique ce qu'est un index, etc. Après, comment tu l'utilises, après, comment ça peut s'optimiser, etc. Enfin, tu vois, ça suit un cheminement logique.
Clairement, moi je trouve que ça fait du bien à tout le monde, ce talk.
Ouais, voilà, et puis t'avais énormément de questions et tout, enfin tu vois, c'était vraiment, c'était un bon talk, quoi.
Ça voilà. Parle de différents types d'index ou ça parle juste des équivalents
du tri? Oui, non, à la fin, si tu veux, on arrive à des partitions d'index, etc., si tu veux, donc c'est un peu plus, okay. C'est assez poussé à la fin, quoi, et c'est chouette. Voilà.
D'accord, et ça reste index, alors je sais pas, après il y a peut-être plusieurs types d'index en dehors du monde des SQL, mais ça reste orienté SQL, je sais pas.
Ouais, là c'est beaucoup des illustrations et des démonstrations avec Postgres.
Ok.
Mais sinon, de base, un index, c'est un index, quoi.
Ouais, bien sûr, mais je suis pas expert là-dedans, clairement.
C'est une représentation de la donnée différente pour aller la chercher et la lire plus vite, en gros.
Yep.
Ça peut être un index SQL, et un index, ça peut être une vue. Tu sais, il y a quelques années, on parlait énormément de MapReduce dans Hadoop. Ouais. Une fonction de MapReduce, c'est en fait, tu crées un index. C'est pareil. T'as des fonctions qui passent sur tous les éléments. À la fin, tu sors un tableau avec des trucs dedans. C'est un index.
D'accord, ok.
C'est tout ce qui te permet de requêter intelligemment sans faire un full scan de ta base, c'est-à-dire sans aller lire l'intégralité de ta base pour aller chercher une information. Globalement, toute méthode un peu intelligente pour faciliter l'évitement d'un full scan, c'est un index.
D'ailleurs, pour parler actuellement, du coup, avec Pulsar et Presto, donc Presto, c'est un moteur SQL qu'on peut utiliser sur un topic Pulsar. Eh bien, si on veut faire du SQL, on doit lire tout le topic. Donc, parce qu'il n'y a pas d'index. Et du coup, ça manque. Et du coup, ça se voit. Et du coup, voilà, feature à ajouter. Je ne sais pas comment, mais on va trouver.
Tu sais si c'est fait aussi dans le cas SQL, d'ailleurs ?
Aucune idée. C'est intéressant, ouais. Il faudrait que...
Si un auditeur a l'idée et veut venir en parler...
Ouais, ce serait super intéressant.
Ouais. On espère que Florent Ramire nous écoute et aura envie de passer le voir. Bref, ce talk est vraiment très très cool. Regardez-le.
Voilà. Ouais.
Je n'ai pas vu en entier, mais j'ai vraiment l'intention de le voir. Ne serait-ce que parce que l'exemple qu'on fait avec PG et qu'on utilise PG. Et à ce sujet, transition toute trouvée pour le lien suivant, cette transition est toute pourrie. Postgre 13 a été release il y a pas mal de temps, et là on est sur Postgre 13.1 qui est disponible sur Clever Cloud dès aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet migration de votre console pour passer de Postgre 12 à Postgre 13.1.
Ouais, 13.1 parce que 13 n'a pas été release. On l'a testé. Et en fait, lors de la migration automatique, il y avait pgdump qui faisait un segfault avec certaines options. Et donc, du coup, pg13.1 en attente, quoi. Et du coup, c'est sorti il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je sais plus. Et du coup, c'est dispo sur Clever depuis hier. Et donc, rien à voir, hein, du coup, mais quitte à parler de pg13, autant parler de pg13. Pg, c'est un projet qui a quand même une certaine durée de vie, et du coup dans le cadre de l'amélioration constante de PG, il y a toujours des petites news intéressantes d'optimisation, et du coup je voulais juste parler d'un petit cas concret que je trouve chouette, parce que après toutes ces années il y a encore ce genre d'optim qui sont possibles, quoi. Et donc
est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que PG est sorti, du coup? parce que moi je le savais pas, et j'avoue que c'est ok.
Je sais pas, entre 85 et 95.
Ça dépend de quoi tu parles.
Je prends la source Wikipédia en initial release.
Je sais pas, je suis peut-être ambitieux, mais je suis peut-être ambitieux, mais je dirais 83, un truc comme ça. Tard que ça.
D'après Wikipédia, c'est juillet 96.
Mais c'est sous le nom PostgreSQL, et avant il y a un historique, ouais, quand même avant ça, parce que si je ne m'abuse, la première sortie vraiment sous le nom PostgreSQL, c'était déjà la version 6 en fait.
Ça s'appelait Ingress ou autre chose, je sais plus, enfin bref.
Ouais, il y a eu différents noms.
Il y a eu différents noms, et ça s'appelle Postgres parce que c'est ce qui venait après, et du coup Postgres c'était le turfu.
Ah yes.
Après les trucs qu'il y avait avant.
Du coup maintenant ça va être Postgres.
Ou Nogres, ou Newgres. Je ne sais pas.
I see. Ok. Et donc, du coup, la news, c'est en fait sur le déduplicate de la data dans les index Bitry. Quand l'index Bitry, c'est l'index par défaut, enfin, le standard dans PG. Et donc, avant, chaque tuple, en gros, de cet index, donc chaque nœud de cet index, avait la clé de la colonne et la valeur indexée. Et donc, du coup, ce nœud-là pointait vers la row correspondante dans la table de la DB. Et ceci, même si t'avais plusieurs valeurs indexées, en fait, pour la même valeur dans la même colonne. Et donc, du coup, t'avais des duplications, en fait, de nœuds dans ton bitstream. Et donc, avec PG13, tous les tuples dupliqués, en gros, ils sont merged dans une liste de tuples. Et donc, du coup, les colonnes key, elles sont présentes qu'une fois. Et du coup, ça réduit l'overhead d'espace utilisé dans l'index. Ça paraît pas grand-chose, hein, mais si on a des tables qui sont indexées où il y a vraiment des champs qui sont très récurrents et qui ont les mêmes valeurs, on va gagner un espace utilisé par les index assez conséquent sur les grosses DB.
Un exemple donc, tout trouvé, c'est par exemple un index sur une colonne de type enum où il y a 10 enum qui vont être utilisés forcément plein de fois sur une table qui a des millions de lignes, bah, du coup on gagne beaucoup de place. Et un index plus petit, c'est aussi un index beaucoup plus performant. Notamment parce qu'on peut le garder en RAM à moindre coût du coup.
C'est clair.
Tu vois, un des trucs qu'on expliquait aux gens quand ils faisaient un MapReuse pour indexer leur JSON à l'époque où c'était pas automatisé tous ces trucs-là, les gens assez vite se mettaient à créer des vues matérialisées plutôt que des index. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils créaient un index, ils mettaient tout ce dont ils avaient besoin dedans. Et tu sais, non, ben en fait, faut peut-être être plus subtil, mettre moins de choses, et ensuite aller chercher juste ce que vous voulez. On n'est pas obligé d'alourdir l'index à ce point-là en mettant, en créant une vue matérialisée finalement. Donc c'est encore différent.
Tout ça me fait penser à l'époque où, enfin je suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais à l'école on disait oui admin DB c'est le job le mieux payé, le plus intéressant et tout. J'étais là, ouais d'accord, mais c'est vrai que tu te rends pas compte de ce job en vrai, quand t'as énormément de tables et tout, tellement d'optimes à faire, c'est trop cool.
Il y a plein d'optimes à faire et puis le côté intéressant de ce job, c'est surtout le côté métier dans le sens où la plupart du tu peux faire des optimes à l'aveugle, c'est-à-dire que tu peux prendre les queries les plus lentes, run un explain dessus et te dire bah tiens il manque un index là, il manque un index là, il manque un index là. Mais la plupart du temps, les décisions que tu prends, elles sont et je pense que j'imagine que Nelson en parle quand il parle de partition d'index. Parce que tu partitionnes pas ton index n'importe comment, il faut que c'est un sens métier, il faut que tu connaisses un peu ce qui se passe derrière. Et si moi, c'est pour ça que je trouve ce métier intéressant, c'est parce que bah, ça rapproche justement du métier du client, de ce qui se passe pour de vrai. C'est assez cool.
Ouais, c'est clair. Et du coup, tu peux apprendre plein de métiers, en fait.
Exactement. C'est typiquement un truc qui est extrêmement compliqué à automatiser. Tu peux automatiser des choses à l'aveugle. Ça, en l'occurrence, ça, c'est... A priori, non, faut quand même avoir une conscience du business, quoi.
Et du coup, pareil pour PG13, petite note en plus que j'ai mis, que maintenant la génération de random UID ne dépend plus de l'extension UID OSSP. Et donc du coup, on n'a plus besoin de la mettre.
Et ni de l'extension PG Crypto, parce que depuis la version 10 ou 11, il y avait déjà une random UID dans PG Crypto qui était un peu moins has-been que UID OSSP. Maintenant, c'est vraiment de base sans extension.
Ok, cool.
C'est nice.
Et donc du coup, ça c'est, j'avais mis dans ma petite note, ça c'est Curcur Love. Voilà.
Et ben Curcur Love, voilà, c'est disponible. N'hésitez pas à passer à Postgre 13 avec notre magnifique outil de migration qui a été codé en partie par Canard.
Ouais.
Juste une question sur PG, il n'y a pas de release LTS, on va dire, genre comme ce que Java peut avoir, Node ou autre.
Non, toutes les versions, à chaque fois, elles sont supportées. Genre là, il doit encore y avoir la 10 pour sûr, et la 9.6 aussi.
Je crois que la 9.6, c'est
la 9.5 doit être end of life, et la 9.6, ça doit être encore supporté pour les fixes de sécurité, je pense. Je crois qu'il y a 4 ou 5 versions qui sont toujours mises à jour.
Mais enfin, c'est vrai que ça s'accélère quand même le rythme des releases. C'est-à-dire qu'avant, t'avais PG11, PG12, PG13. Enfin, je veux dire, ça va.
Ils ont changé de schéma de versionning, en fait, non?
Ouais, peut-être aussi entre les.
Ouais, c'était. Et tout, c'était plus
ça, avant, on passait de 9.3 à 9.4. Aujourd'hui, on passe de 12 à 13. Mais il me semble quand même qu'il y a plus de releases que.
Ouais,
je connaissais. Faudrait vérifier le calendrier, mais j'ai l'impression que c'est plus récurrent.
Pour être le testeur, du coup, le mec qui implémente à chaque fois les nouvelles versions des add-ons PG, je trouve qu'il y en a de plus en plus.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a une par an, en gros, quand tu vas sur postgre.org/support.
Bah justement, sur les 10, 11, 12, 13, j'ai l'impression que c'est une par an à présent. Mais
sinon, c'est juste qu'on vieillit, qu'on a l'impression que le temps passe plus vite. C'est possible.
Ouais, c'est possible.
En tout cas, pour répondre à ta question, la branche 9.5 est supportée jusqu'au 11 février 2021, 9.6 novembre, 10 pareil, alors novembre 2022. Ah ouais. La 11 novembre 2023, la 12 novembre 2024, 13 novembre 2025. C'est très très clair, je vais vous mettre le lien de où j'explique un peu tous les versionnings, comment ça fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont effectivement changé de schéma de nommage. J'ai pas l'impression qu'il y ait... avant, il y avait deux numéros mineurs, maintenant, il n'y a plus qu'un numéro mineur, quoi. Anyway, On va passer sur un autre lien de Canard. On va laisser la parole à Canard parce qu'il n'est pas là souvent, c'est la deuxième fois qu'il vient. Et Canard va nous parler de Vector, qui est un de tes sujets de travail du moment.
Ouais, donc Vector.dev, c'est un tool de collecte de métriques et de logs écrits en Rust, qui est ultra performant et super bien fait, dans le sens où la configuration, enfin pour avoir beaucoup utilisé, en gros ça, c'est un équivalent de Logstash. Et pour avoir beaucoup utilisé Logstash, configurer un Logstash, c'est quand même un sujet. Et Rust vient avec du coup une Rust Vector vient avec une configuration TOML en fait, qui est le langage de configuration par défaut des projets Rust. Et en gros, tu décris tout ton pipeline de traitement de ta donnée, d'où tu la récupères, comment tu la transformes et où tu l'envoies en TOML. Et donc c'est séquentiel. Comme description de configuration. Et donc du coup tu as des sources, par exemple nous on l'utilise dans le cadre de la remontée des logs, enfin pas encore mais ça sera bientôt en prod, du coup ça sera super top. Et du coup on utilise en source par exemple journal, enfin système des journal D. Après on fait des transformations par exemple pour ajouter des environnements type l'application, l'app ID, l'instance ID, le commit, etc.
Avec les fonctions as a service. Pas encore
mais why not. Mais d'ailleurs, tu as une transform wasm, c'est-à-dire que tu peux appliquer une fonction wasm directement dans ta transform dans Vector. C'est encore expérimental, mais quoi ?
C'est nice. C'est...
Bah carrément. Tu peux faire du Lua et puis après, bah t'as tout un outil.
C'est un truc de compiler ton wasm avant, évidemment. Et de...
Oui, bien sûr.
Ouais. Non, mais du coup, c'est vraiment de scripter le Vector si tu n'as pas accès à sa conf, je suppose, ou ce genre de choses.
Bah, scripter, non, enfin, tu vois, l'avantage de l'UA, c'est que tu peux littéralement scripter, là où Wasm. Et c'est des questions qu'on se pose avec Sozu en ce moment, c'est pareil, tu vois. Le fait que tout soit scriptable via l'UA, c'est génial parce que tu peux faire un changement rapidement.
Ouais.
Wasm, faut compiler, shipper un binaire avec.
Ouais, non, mais c'est un sujet. Mais rien que compiler Vector, c'est un sujet, mais il faut de la RAM. Mais l'outil est top.
Compiler Rust, il faut de la RAM.
C'est ça.
Ouais. Et donc du coup, donc toujours Vector. Donc Vector, c'est open source. C'est propulsé par Timber.io, qui est une boîte américaine du coup de collecte de logs. Et moi, j'ai fait mes débuts. En gros, il y a une sync Pulsar. Et du coup, on avait besoin d'un encoding Avro. Et du coup, j'ai fait mes débuts en Rust dans ce projet pour ajouter l'encoding Avro. Et la communauté est super sympa. Ils ont un Discord. Genre, je me suis pointé sur Discord, j'ai dit ouais, j'aimerais faire ça, etc. Ils m'ont dit ouais, faudrait que tu fasses comme ça, machin. Enfin, c'était vraiment très très ouvert et c'est ce qu'on aime de l'open source, quoi. Et du coup, voilà, je voulais leur faire un petit coup.
Alors, quand je dis qu'il y a un sync Pulsar, c'est quoi un sync? C'est un évier?
Ouais, c'est ça. En fait, Vector, ça marche sous forme de stream. Enfin, disons que la data, configuration est modélisée sous forme de stream, c'est-à-dire où tu as des sources, donc c'est tes sources de données, tes transforms, que tu appliques tes traitements et tes syncs, là où tu vas envoyer ta donnée. Et voilà. Pulsar est une sync, c'est-à-dire qu'on envoie les logs dans Pulsar. Pardon.
Avro, ça vient faire quoi là-dedans?
Avro, en gros, ça va définir un schéma de la donnée pour la structurer et que le topic, par exemple, dans lequel on va pousser les data, n'accepte qu'un seul format de données. Et du coup, ça te force à typer ta data. Et après, à pouvoir jouer avec des super outils qui te permettent de la sérialiser, désérialiser, de super sympa au niveau du code. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer un JSON, tu récupères directement ton objet. Et c'est chouette.
Ok. Ouais, c'est un sorte de proto-buff, en fait, de ce que j'avais vu.
Ouais, c'est ça.
Concurrent, enfin, pas un concurrent, mais une alternative, pardon.
Ouais.
Ok.
Sauf qu'il n'y a pas besoin de compiler. Enfin.
Ok.
Non, il n'y a pas besoin de compiler.
S'il y a du Avro de chaque côté.
Ouais. Oui, non, mais par rapport au proto-buff, où il faut que tu viennes avec ton point proto, blablabla. Ça pourrait faire un autre sujet, d'ailleurs. Voilà.
Ok. On passe à un autre article un peu rigolo. C'est un lien d'Arnaud sur Spotify. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Spotify aujourd'hui, Arnaud?
Ouais, alors rigolo, je sais pas. Enfin, ça a l'air d'être assez casse-tête pour la personne qui l'a fait.
Ça a l'air assez très marrant. Mais c'est marrant. C'est marrant.
En fait, tout début, j'ai vu le lien, enfin l'article popé. J'ai pas fait attention parce que je sais pas, j'étais là, ouais, ça a pas l'air très très intéressant. Puis au final, Je l'ai revu après, je l'ai lu, et en effet, c'est incroyable. Donc en fait, c'est une personne qui essaye de comprendre comment sont générés les barcodes que Spotify affiche parfois. En fait, moi j'en vois très peu, mais a priori Spotify en fait a son propre barcode, un peu joli en fait avec leur logo, etc. Et qui en fait, une fois que tu le scannes avec ton téléphone ou n'importe, t'es redirigé en fait vers une référence, donc vers un son, un album, une playlist, n'importe quoi. Et du coup, la personne essaye de comprendre comment ça fonctionne. Donc comment est-ce que tu en effet transformes une image avec différentes informations en une référence vers la musique ou autre. Et en fait, dans tout cet article, il explique exactement comment ça se passe. Alors apparemment, ça fait quand même depuis genre mars qu'il y est, hein, donc ça fait à peu près 6-7 mois, hein, genre. C'est assez long. Mais il explique en fait différentes choses. Il explique en fait leur barcode à Spotify, il y a 8 tailles en fait de code, enfin 8 tailles pardon, de barres, pardon, qui permet en fait de transporter la donnée. Donc il en définit que c'est de l'octal, mm-hmm. un format de calcul ou autre. Donc il a regardé quelles étaient à peu près les tailles. Il a vu par exemple que les deux premières barres étaient toujours à zéro, donc juste peut-être pour le style, mais a priori donc elles n'étaient pas utilisées, c'était plus pour le style, pour commencer tranquillement le barcode, ce genre de choses. Il a fait en fait un petit script Python qui permet de lire en fait le barcode et d'en extraire plus ou moins la donnée. Et en fait, là où c'est problématique, c'est comment est-ce que tu transformes cette donnée en la référence, quoi. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il a toujours pas réussi, mais il avance. Il s'est globalement rendu compte que a priori, Spotify génère en fait un nombre unique pour une URI, c'est-à-dire dans Spotify, en fait, vous avez des URI, genre Spotify de point track, de point l'ID du track, et en fait, Spotify donc génère un chiffre unique pour cette URI, qui sera ensuite encodé dans le barcode en fait. Et en fait, dans le barcode, il y a aussi des techniques plus ou moins marrantes en fait pour valider que la donnée est bonne. Par exemple, ils utilisent a priori un CRC, donc un contrôle de somme, on va dire ça, pour vérifier que la donnée n'a pas été altérée. Parce que forcément, lire des barcodes et des tailles de barcodes avec aussi. Il faut de la précision au final, quoi, parce que c'est ça, il y a 8 hauteurs maximum. Donc il faut être sûr qu'on n'a pas lu, je sais pas, qu'on n'a pas inversé, imaginons, entre la taille 5 et la taille 6 ou un truc du style. Donc il y a une espèce de contrôle de somme. Il y a aussi un autre algorithme qui s'appelle le forward error correction, qui en fait permet de redonder la donnée, c'est-à-dire a priori que la donnée dans le barcode est répliquée plusieurs fois. Imaginons vous voulez encoder le chiffre, le bit 1, imaginons, en fait vous le réécrivez trois fois, vous le mettez trois fois, comme ça quand le programme va lire, il va voir qu'il y a le bit trois fois, si jamais il y en a un qui a 0 pour x ou y raison, il verra que les deux premiers c'est 1, donc il saura en fait que le troisième est censé être 1 aussi. Donc ça permet de faire un peu de la correction d'erreur sur ce genre de choses. Il fait un peu un parallèle avec le spatial, où là aussi, quand on voit des données dans des sondes spatiales et autres, t'as besoin d'une forte correction. Bon, là, en l'occurrence, ça suffirait pas, mais voilà. Il y a quand même ce processus-là dans un barcode Spotify. Et du coup, il y a aussi une autre technique, a priori, appelée le gray code, qui permet donc d'aider la forward error correction. Et en fait, c'est une autre alternative d'encoder tes bits en binaire. Imaginons quand tu représentes certains chiffres, tu changes un à un tes bits et ça se décale tranquillement vers la gauche. Par exemple, si tu encodes, je sais pas, si tu encodes 2 en décimale, en binaire, tu as 0, 1, 0. Et si tu encodes 3, après, en binaire, tu as 0, 1, 1. Et en gray code, c'est pas exactement pareil. Ça évite en fait de faire des sauts trop importants de données. Et en fait, si tu veux encoder 2, imaginons que tu as 0, 1, 1. Et si tu veux encoder 3, tu as 0, 1, 0. Il y a un peu moins de changements. L'exemple n'était pas ouf. Mais il y a un peu moins de changements en fait, au fur et à mesure entre certains chiffres à peu près, un peu plus clés qui permet en fait, une erreur beaucoup moins grosse. Donc, c'est un article qui est super complet. Il est super marrant. La personne n'est toujours pas finie, donc elle va mettre à jour au fur et à mesure, mais c'est pas évident à trouver. Et a priori, Spotify donc, utilise tout un tas de techniques pour leur barcode, qui a priori est derrière un patent C'est la même chose que je crois qu'ils utilisent la Poste, mais en Amérique, un truc du style. Donc c'est un patent qui a été posé par la Poste américaine pour leur courrier ou je sais pas quoi. Mais globalement, voilà quoi.
J'ai juste deux précisions du coup. Ce qu'ils utilisent là, le CRC et FEC, c'est aussi le genre de techniques qui sont utilisées dans les QR codes. Le QR code, la donnée, elle est là aussi un peu plus de fois que nécessaire pour pouvoir. Pour que ce soit quand même lisible si c'est un petit peu. S'il y a des données manquantes ou quoi. C'est d'ailleurs ce qui permet de faire des QR codes avec un logo au milieu. On se permet d'avoir de la donnée en moins au milieu parce qu'on sait que bah, ça va quand même marcher. Et la deuxième précision sur le côté pourquoi ils génèrent un ID spécifique pour le Spotify Code et pas directement l'URI, c'est que l'URI est trop grosse en fait. Ils utilisent trop de données et du coup ça ferait un code énorme. Donc ils ont décidé de générer un ID plus petit et comme ça permet au truc de fonctionner.
Il y a un moment où ils te donnent la taille possible du nombre d'ID qu'ils peuvent avoir.
C'est vraiment énorme.
Le chiffre et du coup c'est genre.
C'est en base 62, donc ouais, 62 puissance 22, ou 22 puissance 62. Ouais, 62 puissance 22. Donc ouais, c'est beaucoup.
Pour donner une idée, je crois, c'était, il disait, si jamais Spotify imprimait une bible entière de toutes ses URI, enfin, Words of URI, donc ouais, des URI, je suppose, toutes les millisecondes, il pourrait le faire pendant...
des milliards et des milliards d'années, ouais, genre des centaines de milliards d'années.
On est sur un chiffre à beaucoup de virgules, là. Ouais.
C'est une bonne façon de se rendre compte de l'échelle, d'ailleurs, je trouve. C'est un bon parallèle.
Bah, c'est énorme, en fait.
Bah, c'est vraiment énorme. Même comme ça, ça paraît démesuré, quoi, quand tu vois juste le nombre d'années. Donc,
Juste ouais. aller voir l'article et quand tu vois le chiffre s'afficher, t'es en train d'essayer de segmenter parce que tu vois que c'est plus que des milliards et du coup, t'es en train de regarder combien il y a de chiffres avant. T'as.
En fait, il y a deux fois plus de chiffres que quand c'est les milliards, quoi. C'est ça, t'es à 18 chiffres.
Ouais, c'est ça.
17,
ouais.
Donc, ouais.
Bref, ils sont tranquilles pour un moment.
C'est ça.
Donc, ok. Juste pour info, CRC, contrôle de redondance cyclique ou cyclic redundancy check. Voilà. On passe au lien suivant. On va finir le podcast. Là, il nous reste une dizaine de minutes. On a quatre news de nouvelles versions d'outils ou de choses qu'on aime bien. Et on va commencer par une nouvelle version de Rust, Rust 1.48, qui est sortie le 19 novembre dernier, soit il y a 6 jours. Canard.
Ouais, non, c'est pas moi. Je suis pas. Je débute, mais. Peut-être pas, tu vois.
Non.
Okay. Je suis pas chaud.
Bon, du coup, la news est sortie. En effet, globalement, la release est. Alors, dans les grosses features, elle est quand même plus orientée de documentation. Dans la documentation Rust, en fait, a priori, on n'est pas écrit beaucoup, mais c'était parfois un peu pénible quand vous vouliez lier des structures en fait ou des types entre eux à travers différents modules, etc. Maintenant vous avez en fait une syntaxe spéciale pour que ce soit en fait le compilateur qui fasse lui-même les liens plutôt que ce soit vous qui les tapiez à la main, genre /mon-type.html. Donc ça, je suppose que c'est pas mal pour la partie écriture de doc, surtout quand on a des types à droite à gauche. Et il est aussi possible de faire maintenant des alias pour un type au niveau de la documentation. Donc au niveau du code, ça vous pouvez déjà le faire, mais imaginons dans la doc, vous avez un type fou, bah, vous pouvez lui dire si l'utilisateur cherche l'alias bar, enfin le mot bar, en fait, bah, vous lui présenterez en fait le type fou, qui correspondra en fait plus à sa requête. Donc a priori, il mettait en avant que c'était vachement pratique pour par exemple les API Windows ou autres, où en fait il y a pas mal de fonctions qui sont nommées d'un côté, enfin d'un nom côté Windows et parfois un peu différent côté Rust, je crois, entre les styles. Donc c'est plutôt cool. Le parti changement d'API un peu plus technique, a priori il y a la possibilité de transformer en fait maintenant un tableau, enfin un vec, pardon, donc un tableau dynamique en array, donc un tableau à taille fixe en fait. Donc a priori ça c'était pas possible avant. Je sais pas dans quel cas ça peut être pratique, je sais que Marco et Geoffroy ont dit que c'était vachement cool. Mais globalement, ça vous permet, voilà, c'est ça, de transformer d'un tableau dynamique à un tableau fixe, peut-être un peu mieux au niveau des perfs, etc., pour accéder à la chose. Après, il y a eu quelques API qui ont été stabilisées. Donc, les plus intéressantes pour moi, je pense que c'était les API de Future, entre Future Pending et Future Ready, qui sont maintenant deux nouvelles fonctions qui permettent de retourner juste une Future qui est Pending et une Future qui est Ready. C'était, je sais que j'avais déjà eu à utiliser ce genre de choses et ça manquait un peu, je trouvais. J'avais utilisé autre chose à côté, hein, en attendant. Donc, c'est plutôt cool. Et sinon, il y a eu d'autres API sur les slices et une sur le VecDQ qui a été aussi stabilisée. Et de nouvelles fonctions stabilisées comme étant const. Donc, qu'elles sont constantes, on va dire, qu'elles peuvent être exécutées lors de la compilation, en fait. Et donc, en fait, leur résultat sera directement dans le binaire. Et si c'est possible, évidemment. Et donc, il y a ce genre de fonctions sur les isSum et isNone de options. ASREF aussi. Et sur les isOK, isError de result, et ASREF de result aussi, en l'occurrence, et deux dans le type ordering, qui permet de faire de la comparaison. Voilà. Donc une petite release en soi, mais qui a quelques API sympas en plus.
Quoi. Avec des optimes partout, et, ouais.
Bah après, je me rends pas compte, c'est peut-être autre chose à discuter, mais en effet, les fonctions const sur des options ou des résultats qui sont déjà définis, oui, ok, mais c'est rare que tu aies déjà la valeur, en fait. Donc, enfin, je suppose, je sais pas. Donc, je me rends pas compte de l'implication que ça a réellement, si ça va vraiment changer quelque chose.
Tu veux dire qu'un truc optionnel sur quelque chose que tu as déjà, c'est pas vraiment optionnel?
Non, mais ça, au pire, ça, c'est un peu normal. Enfin, tu peux avoir ça dans certains cadres, en fait. C'est pas gênant. Mais c'est juste que dans la majorité des cas, en fait, tu connais pas déjà la valeur de ton option, en fait. Ouais. C'est un peu, ouais, voilà. Donc, voilà.
Ok. Alex.
Rien à ajouter.
Passe au lien suivant. Nouvelle sortie de Firefox. Firefox 83. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils pouvaient forcer le HTTPS tout le temps. C'est ça.
Ouais, c'est de refuser complètement le chargement des pages en HTTP. J'ai pas essayé, personnellement. Je sais pas si quelqu'un a essayé.
Ouais, moi, je l'ai activé dès que j'ai vu la news. Ouais.
Et du coup, ça t'a gêné pour l'instant ou pas?
Absolument pas. Honnêtement, absolument pas. Ça a peut-être gêné, peut-être si, sur un site perso ou un truc du style, tu vois, ce genre de choses, mais... qu'il n'y avait pas de HTTPS ou je sais pas, mais je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois aujourd'hui d'avoir eu à le changer, et c'était dans ma session perso. Dans ma session pro, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le faire. Donc voilà.
C'est vrai que ça peut être une bonne chose, je pense qu'on finit par s'habituer à ce que ce soit quasiment HTTPS partout, et du coup, pas forcément y faire attention. Au moins là, comme ça, tu sais que tant que le browser ne te dit rien, c'est que c'est OK.
C'est ça.
T'es tranquille.
Bah après, il y avait déjà, du coup, en effet, l'extension HTTPS Everywhere qui s'occupait de ça, qui était très populaire.
Mais elle bloquait pas, si. C'est juste qu'elle essayait de charger un HTTPS quand c'était possible, quand il n'y avait pas de redirection automatique, par exemple, non? C'était pas ça?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que le Firefox il fait, c'est globalement ça. Tu essaies de mettre un site en HTTP, il va te le changer en HTTPS. Et...
ouais, mais il va te bloquer aussi si c'est pas possible. Genre, il te met une grosse page d'avertissement comme si t'étais un certificat
expiré, non? Ah oui, peut-être, oui. C'est peut-être la différence.
C'est ce que j'ai cru voir. Après, là, comme t'as pas encore eu le cas, peut-être que je m'en ai pas rendu compte, mais il me semble que j'ai vu ça.
Bah, j'utilise pas HTTPS Reader, donc j'avoue, je sais pas s'il bloque ou pas. Mais oui, en effet, là, c'est vrai que c'est bloqué. T'as une page d'erreur, enfin, d'erreur, plutôt de warning, on va dire, qui te permet de bypass la chose si tu sais que, de toute façon, tu veux accéder en HTTP. Mais aussi un problème en effet avec certains sites qui parfois ont des ressources qui sont servies encore HTTP malgré que le site soit HTTPS et ça du coup maintenant pareil le browser va les bloquer donc attention si c'est pas accessible HTTPS évidemment donc, parfois certains sites peuvent être cassés, ça m'est pas encore arrivé ou alors je m'en suis pas rendu compte.
Et après je suppose qu'il y a juste une exception sur genre localhost où il s'attend pas à ce que ce soit HTTPS.
Oui, je pense, oui. Je crois que... ouais. Je crois que j'ai chargé un ou deux sites en localhost sans HTTPS, ça s'est pas posé de problème. Donc voilà, petit truc sympa, vous pouvez activer ça dans les options, dans la partie sécurité de Firefox. Ça n'a pas l'air disruptif comme option, en tout cas. Voilà.
Ok, on reste dans la sécu et dans les nouvelles sorties, et on parle de WireGuard. Nouvelle version Windows sortie, je sais plus, hier ou avant-hier. Et sur cette news, c'est l'occasion de voir que WireGuard était déjà aussi dispo sur ce que je ne savais pas, sur le Unbreakable Enterprise Kernel d'Oracle, et qui est globalement une distrib Oracle, une distrib Linux Oracle, sur Android et sur OpenBSD. et sur Windows. Et là, c'est la version 0.3 qui apporte tout un tas de correctifs. Et pour rappel, WireGuard, c'est ce qu'on utilise beaucoup chez Clever pour ce qui est VPN.
Et ça marche très bien sur Windows. Enfin, moi, je m'en suis servi sur Windows. Ça marche plutôt bien. C'est assez simple.
Sur Android aussi, l'appli, elle est vraiment cool.
Là, sur Android, avant qu'il y ait l'appli, j'avais du coup recompilé le kernel Android pour ajouter le support de WireGuard. C'était un sacré délire.
Sport
ouais. J'en avais mis du temps, mais bordel, c'était marrant, quoi. Puis ça m'a pas servi après, forcément.
Ouais, mais tu t'es amusé.
Ouais, non, mais tu sais, t'as toujours cette crainte. Alors moi, j'ai toujours cette crainte de casser mon Android, on va dire, de péter un truc.
Ouais.
Et tout.
Wow.
De briquer ton téléphone.
Ouais, voilà, ouais, je sais pas.
C'est pas grave, c'est ton téléphone professionnel.
Ouais.
Ok, et on termine par... un anniversaire.
Ouais, l'anniversaire de GIMP, logiciel de retouche photo et d'images, etc., qui a 25 ans depuis quelques jours, le 21 novembre. Voilà, donc ils ont sorti un petit article pour commémorer ça. Il n'y a pas de release qui va avec, ils le disent à la fin, il n'y a rien de nouveau. Et l'article fait juste un résumé vraiment très rapide de ce qui s'est passé dans ces 25 ans, les étapes importantes, ce qu'ils ont essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Notamment la UI, on a pu le reprocher pendant très très longtemps avec les fenêtres séparées. Je me souviens qu'à l'époque j'avais une conf spécifique dans mon tiling sur un tag pour dire que ça splitait avec une grosse fenêtre au milieu et puis deux petites sur les côtés, c'était génial. Sans ça c'était vraiment horrible. Et voilà, et petit truc quand même que j'ai appris dans cet article, j'ignorais complètement, GTK, le framework de UI utilisé dans pas mal de soft aujourd'hui, ça vient du projet GIMP à la base en fait. Ouais, ça, je l'ignorais.
Bah, je crois que le G, c'est pas pour GIMP, en vrai.
Bah, peut-être, GIMP Toolkit, ouais, c'est possible.
Ouais, j'étais pas sûr, j'avais... en fait.
J'avais appris ça il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça, GIMP Toolkit. GTK veut dire GIMP Toolkit. Voilà.
Dans ma tête, c'était plus G pour le G de GNOME, en fait. Ah, ouais. En fait, non, c'est dans l'autre sens.
Ouais. Rigolo.
Comme quoi.
Rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait de mon dé ? Mon dé, il est là. C'était donc le dernier lien de la semaine. Nous allons procéder au choix musical. Je suis de 1 à 5, Alexandre Berthaud de 6 à 10, Alexandre Duval de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20. Et j'ai fait 19 à Arnaud Lefebvre.
Yes. Alors du coup, la musique que j'ai mis, c'est un artiste que j'ai découvert qui a en fait réalisé toute la bande-son de la série sur Netflix là, qui est sortie. Avec les espèces de zombies, la révolution, voilà.
Ça peut être, je pense, ça peut être plein de séries différentes. La série avec des zombies. Ça, ouais. Alors.
Bref, c'est une série qui était française, qui a été faite par Netflix. Bon, c'est pas incroyable. Enfin, j'ai passé un, c'était sympa. Mais ce qui m'a le plus fait kiffer, c'était la musique. Et donc, en fait, l'artiste qui a réalisé ça est un compositeur français. A priori pas très connu, je sais pas, en tout cas moi je le connaissais pas, il avait pas beaucoup de follow ou autre, donc la musique un peu électro, un peu chill, un peu parfois aussi un peu je sais pas, enfin il y a un orchestre derrière, tu vois, c'est pas la même, c'est pas du pur électro, c'est fait en collaboration avec un orchestre et tout, donc,
Ok, des moments un peu épiques et des choses comme ça.
Ouais, ça dépend en effet.
Ouais, je suis en train de kiffer, merci.
Ouais, carrément, c'est vachement bien.
Et ben, on vous laisse avec ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les trois d'avoir participé. On vous dit à la semaine prochaine.
Salut.
Au revoir.
Salut.